Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes ou des coupables. Ils sont nos voix du crime. Dans chaque épisode, vous entendez un témoin clé, un homme, une femme, qui raconte une affaire qui a marqué l'histoire criminelle de son point de vue. Je suis Jérôme Florin et j'ai choisi de revenir pour vous sur l'un des dossiers les plus retentissants de ces dernières décennies, l'affaire d'Outreau, dans le Pas-de-Calais, où des parents ont été accusés d'avoir violé et prostitué leurs enfants sur fond de misère sociale. L'enquête s'est ouverte il y a tout juste 20 ans et l'affaire a donné lieu à plusieurs procès dont tous les acteurs sont sortis en lambeaux, les accusés, presque tous acquittés, la justice, les institutions, et puis ceux qu'on aura finalement si peu entendus dans toute cette histoire, les enfants. 12 mineurs à l'époque ont été reconnus victimes de viols et d'agressions sexuelles par la justice et ont été à ce titre indemnisés. Tout paraît monstrueux dans ce dossier. L'atrocité des témoignages, les rumeurs comme ce meurtre d'enfant qui n'a jamais eu lieu, et puis les revirements de la principale accusatrice et accusée, Myriam Badawi. En 2004, à Saint-Omer, 7 des 17 accusés seront acquittés. 6 comparaîtront en appel l'année suivante à Paris, tous acquittés à leur tour. Certains ont passé plus de 3 ans en prison pour rien. Au final, seules 4 personnes seront condamnées, les parents, Myriam Badawi et Thierry Delay, et un couple de voisins. La France s'émeut alors du fiasco d'Outreau. On parle de Tchernobyl judiciaire et médiatique. Mais les enfants dans tout ça, qu'a-t-on fait de leurs paroles s'ils ont parfois menti, accusé à tort? 12 ont bien été reconnus victimes. Maître Pantaloni représentait 3 d'entre eux lors du procès en appel à Paris. Il revient pour nous sur ce monstre judiciaire qu'a été l'affaire d'Outreau. Il est la voix du crime de cet épisode. Bonjour Maître Pantaloni.
Bonjour.
Comment arrivez-vous dans ce dossier en 2005? Donc on est quelques mois après le premier procès d'Outreau qui avait eu lieu à Saint-Omer.
Alors nous arrivons, Didier Lec et moi, dans ce dossier après que les avocats des parties civiles aient renoncé à assurer la défense des parties civiles devant la Cour d'assises de Paris, à raison du climat qui avait été celui de la Cour d'assises de Saint-Omer. Probablement avait-il été malmené et avait-il un souvenir un peu compliqué de l'audience de Saint-Omer.
C'est-à-dire ?
Vous savez comment s'était déroulée l'audience de Saint-Omer, c'est-à-dire qu'il y avait eu des revirements, il y avait eu des déclarations contradictoires, il y avait eu, je dirais, un climat, globalement, qui était un climat quand même de violence, qui faisait que ces avocats-là ne voulaient plus se trouver confrontés à ce climat-là, et ils craignaient qu'ils se renouvellent devant la Cour d'assises de Paris. Le Conseil général nous demande d'intervenir en lieu et place des avocats qui étaient intervenus précédemment, ce que nous avons accepté, Didier Lec et moi-même, et donc nous sommes intervenus à ce niveau-là, simplement devant la Cour d'appel de Paris.
Vous aviez suivi d'ailleurs un peu ce procès en 2004 ?
Je l'avais suivi comme tout citoyen et un peu comme juriste aussi. Parce que, évidemment, c'était une procédure qui avait été très médiatisée, donc on écoutait et on savait ce qui s'était passé. Alors, le dossier est fragile dans la mesure où il y a eu des appels qui ont été interjetés, il y a eu ce fait que constitue la première audience. En même temps, c'est un dossier qui a quand même abouti à un certain nombre de condamnations en première instance, et il n'y a pas eu d'appel de tous les accusés. La famille Delay n'a pas interjeté appel, et la famille Badawi non plus. Donc il y a des condamnés qui sont définitifs à raison des déclarations des enfants.
Vous avez le sentiment d'hériter d'une patate chaude ?
Non, d'un beau dossier d'abord, d'un dossier difficile aussi. On est partie civile, on représente un intérêt, celui des enfants qui ont fait un certain nombre de déclarations qui ont conduit à la mise en examen de la Béviel d'une part, de l'huissier Maricot d'autre part.
À titre personnel, donc vous représentez 3 enfants, 2 qui accusent l'abbé Vielle, condamné à 7 ans de prison en première instance. Un autre accuse son père, l'huissier Maricot, condamné à Saint-Omer à 18 mois de prison avec sursis. Quand vous les rencontrez, ces enfants, ils sont comment? Dans quel état?
Alors d'ailleurs, on les reçoit tous, sauf, dans mon souvenir, le fils de Maricot. Lorsque nous les rencontrons dans les locaux du Conseil général, la protection à l'enfance, et ils ont été conduits là un matin parce qu'on doit les rencontrer dans la journée. Voilà. Donc ils sont dans une salle d'attente avec pour partie leur assistante maternelle, pour partie le personnel du Conseil général qui les accueille bien, hein, mais en même temps c'est par nature un local administratif. Hein. Et on les reçoit individuellement, avec Didier Lec, chacun. Et ils sont évidemment impressionnés. Je pense que lorsqu'on les reçoit, ils sont là, pas contre leur volonté, mais sans que leur volonté n'ait véritablement été sollicitée. C'est-à-dire qu'il y a une procédure en appel. Cette procédure en appel les concerne, puisque d'aucuns qui ont fait appel sont accusés par eux. Et donc, ils sont dans la nécessité de devoir renouveler ou pas leur déclaration. Et donc, on revient sur ce qu'ils ont dit, sur les déclarations qu'ils ont faites, et on les interroge ou on les sollicite quant à leur perception des faits.
Ces enfants, ils parlent facilement, ils s'expriment facilement, clairement.
Non, ils ne s'expriment pas clairement. Ils ont quand même été mis à mal par ce qui s'est passé à Saint-Omer. Ensuite, comme je viens de vous le dire, ils viennent parce qu'on leur demande de venir. On les reçoit individuellement, on essaie de les rassurer. On essaie de les rassurer à la fois sur ce qu'ils ont dit et sur ce qu'ils pourraient dire, leur indiquant qu'on serait toujours à leur côté, mais sans avoir la volonté, je dirais, d'en faire des fers de lance d'une accusation qu'ils ne voudraient pas maintenir. Donc on est très ouvert par rapport à leur déclaration. Notre rôle n'est pas de leur faire tenir un rôle. Notre rôle est de leur laisser dire ce qu'ils ont à dire par rapport à ce qu'ils ont dit.
C'est un dossier ultra médiatisé. Est-ce que vous ressentez une pression particulière ?
Alors, au moment où on les rencontre, on est dans une phase d'accalmie. Il y a eu un moment de grande effervescence, c'est devant la cour d'assises de Saint-Omer. Et puis, il y a une phase un peu de relâchement de la tension, qui est la période qui commence à ce moment-là et qui va jusqu'à la cour d'assises de Paris.
Les enfants que vous défendez tiennent des accusations graves, on parle de viol, d'agression sexuelle. Pendant le premier procès, ils sont passés pour des menteurs aux yeux de la France entière.
Ils sont passés pour des menteurs à raison, notamment, je dirais, de la relation qui est faite de leurs paroles. Hein ? Ils ont dit un certain nombre de choses. Ces choses pouvaient être en contradiction avec ce qu'ils avaient déclaré devant ou le juge ou les enquêteurs de police. Et derrière cela, il y a tout un discours qui se construit sur ce qu'ils ont dit et sur ce qu'on doit en tirer.
Est-ce que vous avez le sentiment que vous arrivez à ce procès en appel avec finalement un verdict qui se profile déjà, celui de l'acquittement général ?
Alors non, tout n'est pas joué. Et au moment où nous abordons le dossier, nous sommes conduits à rencontrer ceux qui vont être les juges de cette procédure, de manière, je dirais, formelle, la présidente, et de manière un peu moins formelle, l'avocat général Janier, qui est là pour porter l'accusation. Donc, lorsque nous les rencontrons, et lorsque nous rencontrons en particulier l'avocat général, celui-ci nous donne le sentiment qu'il veut laver l'honneur de la justice tel qu'il a été bafoué devant la cour d'assises de Saint-Omer.
Il y a une envie de revanche.
Oh, écoutez, il ne faut pas employer des mots pareils. Il a envie, semble-t-il, que la justice soit rendue. Mais lorsqu'on est avocat général et qu'on dit que la justice soit rendue, cela, et qu'on porte l'accusation, donc, c'est dire que probablement des condamnations soient confirmées.
Donc, on arrive à ce procès en appel, à la fin de l'année 2005. On est à Paris et non plus à Saint-Omer. Être à Paris, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que c'est une pression supplémentaire ?
Oui, mais ça se gère, disons.
Hein ? Pas plus que d'habitude.
Si, probablement plus que d'habitude. Mmh. Et c'est souvent à titre rétrospectif qu'on se dit qu'il y avait une pression plus importante que d'habitude. Mais au moment où on est dans l'enceinte judiciaire, je dirais, on fait son travail et on est à ce qu'on fait.
Donc vous arrivez et vous demandez, avec votre confrère Didier Lec, le huis clos.
Alors c'est là qu'il y a un premier clash, si je puis dire. Le huis clos est de droit. Mais les avocats de la défense regardent le huis clos comme une manière, je dirais, de phagocyter le procès. Et donc, ils sont très hostiles à la notion de huis clos. Voilà. Cela étant, il est de droit. Et donc, il va être ordonné, mais ordonné de manière partielle et ne concerner que le recueil de la parole des enfants.
Est-ce que les enfants, ça les a quelque part détendus de savoir qu'ils pourraient témoigner à huis clos, j'allais dire loin des caméras, même si les caméras ne sont pas dans la salle d'audience, mais est-ce que ça, ça les apaise un peu ?
C'est difficile à dire. En tout cas, ils savent qu'on va demander le huis clos. Ils savent que c'est pour eux protecteur. Et en même temps, ils n'en mesurent pas nécessairement la complète signification, étant observé quand même que ce huis clos est un huis clos très habité, puisqu'il y a les magistrats, les jurés, l'avocat général, les personnes renvoyées devant la cour d'assises et leurs avocats. Donc il y a quand même un grand nombre de personnes.
Donc il y a 6 condamnés en première instance qui viennent à ce procès en appel. Dans la salle, parmi les témoins, il y a Myriam Badawi. Cette femme qui a accusé, on peut dire, la terre entière lors du premier procès, comment est-elle et comment se comporte-t-elle ?
Dans mon souvenir, elle a un comportement assez bas. C'est-à-dire qu'elle ne la ramène pas, voilà, on va dire ça comme ça. Mais elle est comme témoin, elle intervient comme témoin, elle n'est pas comme appelante, hein. Mais elle a un profil bas, voilà. Son profil est assez bas et elle est assez taisante, disons. Ce n'est pas une star quand elle arrive comme témoin à l'audience de la Cour d'appel de Paris.
RTL 7h34.
À Paris, au procès en appel d'Outreau, c'est désormais presque chaque jour que l'on voit des rétractations.
Myriam Badawi, la principale accusatrice, a en effet innocenté hier les 6 accusés. Il y a 3 jours, l'abbé Vielle avait déjà été mis hors de cause par 2 enfants. Les charges retenues se font donc de plus en plus minces, car après Thierry Delay et Aurélie Grenon, Myriam Badawi est la 3e des 4 protagonistes de l'affaire à disculper les 6 accusés. Chloé Triomphe a suivi pour RTL cette nouvelle journée de rétractation.
Tout le monde attendait Myriam Badawi. Son avocat prédisait qu'elle viendrait innocenter les innocents. En jogging, la coupe à la Jeanne d'Arc, mais en très court, avec de nouvelles lunettes, mais la même assurance qu'à Saint-Omer, Myriam Badawi a déclaré d'un seul jet « Voilà, j'ai menti, je voudrais que la cour et les jurés me croient et ne jettent pas ces gens en prison, ils n'ont strictement rien fait et je voudrais leur dire pardon. »
Myriam Badawi se rétracte, elle innocente tous les accusés en appel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le procès, Maître Pantalouni ?
C'est presque neutre et ça annule. Chacune de ces déclarations annule la précédente.
Ce n'est pas une déflagration.
Non, ça, ce n'est pas une déflagration du tout.
Et comment sont les enfants ? Est-ce qu'ils sont impressionnés ? On est dans une grande salle. Ils affrontent ceux qu'ils accusent de viol. Quand on a 10 ou 11 ans, c'est difficile. Est-ce qu'ils arrivent à s'exprimer ? Est-ce qu'ils sont écoutés et entendus par la cour ?
Alors d'abord, il faut voir la cour d'assises de Paris, la grande salle de la cour d'assises de Paris. C'est une salle qui est quand même impressionnante et fastueuse. Il faut voir que ce sont des petits garçons qui mesurent 1m30, hein, qui arrivent là un petit peu comme dans une arène. C'est difficile pour eux. Il faut voir ensuite qu'ils sont tous issus de milieux carencés, sauf le fils Marico, et que donc ils sont le résultat de manquements culturels, éducatifs, de toutes sortes en fait. Et donc ils sont effectivement un peu et nécessairement impressionnés.
Et ils vont attendre longtemps avant de pouvoir s'exprimer.
Alors ils attendent longtemps pour une raison toute simple, c'est que une cour d'assises, c'est un tempo d'auditions qui se succèdent, et que si les auditions prennent du retard, eh bien les suivantes arrivent en retard. Et donc eux arrivent du nord le matin, ils doivent être entendus à des heures qui sont relativement précises, et ils vont être entendus bien après le moment où ils était prévu qu'ils soient entendus. Je pense que certains ont été entendus en extrême fin de journée.
Est-ce qu'ils arrivent à s'exprimer, ces enfants, ou est-ce qu'ils ne font que confirmer des déclarations faites des années auparavant ?
D'abord, on ne leur demande pas de s'exprimer ex nihilo, hein, et de dire ce qu'ils ont à dire. Je crois qu'ils n'en sont pas capables, et de fait, ils n'en sont pas capables. On va les interroger sur ce qu'ils ont dit. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est qu'il y a différentes manières d'interroger sur ce qu'on a dit. Soit on leur demande de confirmer, soit on les interroge sur le mode interro-négatif. Et donc, est-ce que tu es sûr que... Et donc là, déjà, on se trouve dans un débat qui est beaucoup plus compliqué pour eux. Est-ce que tu confirmes ce que tu as dit ? Ce n'est pas la même chose que de leur dire « Alors tu as dit cela et donc tu nous le répètes ?» Voilà. Donc déjà, là, il y a une difficulté. En ce qui concerne les enfants qui avaient mis, qui avaient accusé l'abbé Vielle, non, ils ne confirment pas. En même temps... Il y avait un problème dans les déclarations que faisaient les enfants qui mettaient en cause l'abbé Vielle, c'est qu'à la fois, ils parlaient d'un comportement furtif, hein, et dans le même temps, ils indiquaient qu'il avait participé à des bacchanales où il y avait beaucoup de personnes. Donc, c'était un peu contradictoire. En ce qui concerne le fils Maricot, il confirme plutôt.
Est-ce que la Cour, est-ce que la présidente du tribunal, est-ce que l'avocat général arrive à mettre en confiance ces enfants, justement, pour les interroger ?
Non, je pense qu'ils n'ont pas ce projet-là. Ils n'ont pas le projet de les mettre en confiance. Alors, ils n'ont pas le projet parce qu'ils sont dans leur fonction, hein, simplement, et que leur fonction, c'est de juger les accusés, tout en recueillant la parole des enfants. Ensuite, il y a un tempo de la procédure qui fait que la procédure avait été partiellement mise à mal à raison des déclarations ou de la manière dont les déclarations avaient été recueillies des assistantes maternelles. Ensuite, il y avait eu les incidents qui concernaient les experts judiciaires. Et donc, on a un délitement quand même de la procédure avant même que les enfants soient entendus.
Alors, racontez-nous ce qui se passe justement avec cet expert judiciaire qui va parler d'expertise de femme de ménage. Enfin, là, je synthétise, c'est pas exactement ce qu'il a dit.
C'est-à-dire que il y a deux experts qui vont intervenir. Il y a Madame Griset qui va être à tort ridiculisée, hein, parce qu'on va surinterpréter ce qu'elle dit et on va la ridiculiser.
Comment ?
Écoutez, dans mon souvenir, il y a des dessins qu'on fait faire aux enfants. Ces dessins sont ensuite interprétés par des psychologues et d'aucuns y voient la marque d'attouchement, par exemple, voilà, ou la conséquence d'attouchement.
C'est-à-dire que les enfants ne dessinent pas des scènes de viol ou d'attouchement, ces dessins sont interprétés et ça fait rire la cour.
Alors, et ça fait rire la cour parce que d'abord, personne n'a la perception de ce que c'est que le travail d'un psychologue. Hein, et que c'est toujours facile de rire d'un discours qui est un discours de professionnel. Et donc il y a un second expert qui va venir à l'audience et qui va rappeler les conditions dans lesquelles interviennent les experts en matière judiciaire et qui va conclure, alors je ne sais plus si c'est devant les médias ou si c'est devant la cour elle-même, en indiquant que quand on est payé comme une femme de ménage, il est normal qu'on fasse des expertises de femme de ménage. Donc là-dessus, à la fois ça discrédite le premier expert, ça discrédite les expertises en général, et dans le même temps, il y a des experts extérieurs à la procédure qui vont, par souci de médiatisation personnelle aussi, parfois, aller au soutien de la décrédibilisation des expertises judiciaires telles qu'elles existent dans le dossier. En fait, si on a un regard rétrospectif sur la totalité de l'affaire, dans un premier temps, il y a une médiatisation qui se fait sur l'idée du tous coupables et des enfants dont la parole est absolument... doit être recueilli
sacré.
Et puis, il faut se souvenir qu'on est dans la continuité de l'affaire Dutroux. Hein, et la presse parle d'une affaire Dutroux à la française. Et puis, il y a l'épisode de la cour d'assises de Saint-Omer, où là, tout d'un coup, par la violence de l'audience, hein, par l'effet de la violence de l'audience, sa médiatisation aussi, tout d'un coup, on se dit que le pouvoir n'est pas là, n'est pas du côté de l'accusation. Et donc, il y a un premier revirement et un effet de meute qui se produit au soutien des accusés.
Vous parliez des experts judiciaires, mais il y a aussi les assistantes maternelles qui ont recueilli les tout premiers témoignages de ces enfants. Comment sont-elles perçues pendant ce procès en appel ?
Les assistantes maternelles vont continuer à apparaître comme des tricoteuses. C'est-à-dire celles qui sont au premier rang et assistent à la mise à mort des accusés, hein, comme dans les procès révolutionnaires. Donc elles vont être regardées comme les mauvaises qui poussent l'accusation.
La défense, à la fin, elle ne va pas plaider?
Non, elle ne va pas plaider, mais parce qu'il y a entre-temps cette mascarade de l'arrivée du procureur général de Paris, Yves Bot, depuis le fond de la salle d'audience, qu'il remonte en robe rouge sur les marches du parquet, hein, et qu'il va faire une conférence de presse. Alors c'est à la fois fastueux et c'est une mascarade.
Vous avez déjà vu ça en tant qu'avocat?
Je pense que personne ne l'a vu, et que personne ne l'a vu depuis. Mais c'est une véritable mascarade.
Qu'est-ce qu'il vient dire?
Écoutez, il vient faire amende honorable au nom de l'institution judiciaire. Amende honorable en indiquant qu'il n'y a que des innocents et que l'innocence a été bafouée à raison de la procédure qui s'est déroulée depuis l'instruction jusqu'au jour où il arrive.
Et donc ça, c'est avant la délibération des jurés?
Après les plaidoiries des parties civiles et avant les réquisitions du parquet. Il s'interpose entre la cour, la présidente, le public, les accusés et le public. Et là, il fait une conférence de presse en robe pour indiquer que la justice fait amende honorable. Lorsqu'on sait que le parquet est hiérarchisé, il paraît assez évident que la démarche vient de haut.
Là, vous sentez clairement que vous avez affaire à quelque chose de très politique.
À l'évidence, oui. S'agissant du plus haut magistrat du parquet, il est difficilement imaginable qu'il s'affranchisse de toutes les règles pour venir faire amende honorable.
Il y a donc le revirement de Myriam Badawi, deux enfants qui retirent leurs accusations contre l'abbé Vielle, et finalement, le verdict. Acquittement général pour les six accusés lors de ce procès en appel. Quel est votre sentiment à ce moment-là?
D'abord, ceux qui ont été acquittés l'ont été, et on doit respecter la décision d'acquittement. Hein. En même temps, fondamentalement, j'ai le sentiment d'une gabegie. D'une gabegie parce que la justice, elle doit être rendue dans la sérénité, elle l'a pas été. Elle l'a pas été, d'ailleurs, tout au long de cette procédure, hein, durant le temps de l'instruction, devant la cour d'appel de Saint-Omer et devant la cour d'appel de Paris. Voilà. Ensuite, parce que il y a toujours des perdants dans une procédure. Et les perdants sont quand même les enfants.
Vous avez de la peine pour eux, à ce moment-là?
Oui, bien sûr qu'on a de la peine. On se dit qu'ils ont été très malmenés. Ils ont été très malmenés. Et puis, il y avait ceux que je défendais. Dès lors qu'ils étaient revenus sur la décision, sur leur parole plutôt, dès lors qu'ils étaient revenus dessus, d'une certaine manière, ils en étaient libérés, hein, de leur parole. Et puis, la décision avait vocation à correspondre à ce qu'ils avaient dit. En ce qui concerne le dernier enfant, il n'était pas revenu sur sa parole.
Le fils Maréco.
Oui. Il n'était pas revenu sur sa parole. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai plaidé, en qualité de partie civile, au soutien de cette parole. Et donc j'imagine que pour lui c'était peut-être plus compliqué.
Vous en avez parlé avec eux de ce verdict?
Non, 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 on n'a pas été...
Donc vous n'avez pas pu avoir leur réaction à ce moment-là?
Non.
Comment en est-on arrivé à ce fiasco? Alors, je ne sais pas si c'est le fiasco de la justice ou un fiasco pour les enfants. Vous l'avez dit, les premières victimes là-dedans, ce sont les enfants. Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Écoutez, je crois que la justice, elle doit être rendue sereinement. Lorsqu'elle est rendue sous la pression de la reine, du peuple, mais de la reine, j'entends, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que à ce moment-là, chacun a un avis sur chaque déclaration. Dès lors qu'elles sont divulguées, transmises, etc., chacun a un avis. Et donc chacun avait un avis, chacun se rangeait dans un camp. Ce qui est tout à fait anormal. Et c'est d'autant plus anormal que, en plus, on se trouvait confronté à des paroles d'enfants. Et donc, la justice n'a pas été rendue sereinement dans ce dossier.
« Il y a toujours une identification dans un procès. Et cette fois, ce qui a été hallucinant, c'est que l'opinion s'est identifiée aux accusés et pas aux enfants. Comment vous expliquez ce renversement ? L'espace victimaire a été occupé par les accusés et pas par les enfants.
Mais parce qu'il y a eu un pilonnage médiatique là-dessus. Il y a eu un pilonnage médiatique. C'est-à-dire, au fond, même les pacifistes en 14 sont partis à la guerre la fleur au fusil. Hein, sauf quelques-uns, mais la plupart sont partis de la fleur au fusil. Donc, dès lors qu'il y a un discours qui est tenu, qui est mis en exergue de tout ce qui se passe, ce discours, à un moment donné, il pénètre les citoyens.
Comment la parole des enfants a fini par être piétinée ? Quelle est l'origine de tout cela ?
Je pense que la parole des enfants a été piétinée parce que d'abord, elle a été pas nécessairement bien recueillie au départ. Lorsque les policiers recueillent la parole des enfants, les enfants ne sont pas enregistrés. Je dirais, les enfants sont interrogés avec la volonté de leur voir confirmer ce que d'autres ont dit. Ce qui fait qu'au total, il y a une espèce de parole qui est recueillie dans le cadre d'une espèce de surenchère. Ensuite, dans le cadre de l'instruction, il n'y a pas nécessairement de réflexion conduite sur ce qu'ils disent. Au fond, le juge d'instruction, il recueille des paroles, mais il est aussi amené à les confronter. Et dès lors qu'il les recueille et les reçoit pour argent comptant, sans jamais les mesurer, sans jamais leur porter la contradiction, même une contradiction intellectuelle, eh bien, à ce moment-là, on a un recueil de paroles qui devient nécessairement fragile.
Et au final, on a sur les 17 accusés de départ, 4 adultes condamnés et par ailleurs 12 enfants reconnus victimes par la justice et indemnisés. En 2006, après le procès en appel, est lancée la commission parlementaire Outreau pour comprendre pourquoi la justice a dysfonctionné. Vous êtes auditionné, Maître Pantaloni. 15 ans après, qu'est-ce qui a changé ?
Ça a partiellement changé, notamment concernant les auditions des enfants, le recueil de la parole des enfants, ça a partiellement changé. Je pense qu'on est plus vigilant. En même temps, des fiascos judiciaires, il y en a eu, il y en aura.
Il y a eu la vague, et elle existe encore, du MeToo, des révélations d'abus sexuels, de viols, visant des kidam ou des personnalités d'ailleurs. Est-ce qu'on peut tirer des leçons de l'affaire Doutreau concernant cette parole-là qui se libère et des procès éventuellement qui vont suivre ?
Il est bon que la parole se libère. Il est bon que ceux qui ont été victimes puissent dire qu'ils ont été victimes. Ensuite, il y a un problème qui est un problème judiciaire. Et il y a un autre problème, et au titre du problème judiciaire, il y a le problème de la prescription. Donc, la prescription a la vocation à jouer dès lors que les dossiers sont prescrits. Et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est un peu la situation d'entre-deux qui existe. Cette situation d'entre-deux où on ne peut pas poursuivre, mais en même temps, l'institution judiciaire se mobilise au soutien d'affaires qu'elle ne pourra pas traiter.
C'est-à-dire la justice se saisit ou est saisie, mais ça n'ira pas plus loin.
Ça n'ira pas plus loin. Alors, c'est un problème qui est grave, parce qu'en réalité, ça veut dire qu'on met sur la place publique des dossiers et on les livre, je dirais, en pâture au sentiment de tous.
Est-ce que la parole des victimes aujourd'hui a été resacralisée ?
Oui, mais en fait, elle ne doit pas être sacralisée, elle doit être entendue. Ce n'est pas la même chose. Tout ce que chacun dit n'a pas vocation à être entendu comme sacré. Tout a vocation à être discuté pour voir la part du vrai et la part du faux. Il n'y a pas de parole absolue. Et donc, on ne peut pas sacraliser la parole d'une victime. Elle doit quand même être discutée. La difficulté aujourd'hui dans ces affaires prescrites, c'est que, au fond, comme dans Outreau, au fond, tout le monde se positionne et se positionne sans avoir le droit absolu de le faire. Il faut respecter les victimes, mais il ne faut pas que le public s'empare de ces dossiers-là en particulier comme étant les siens.
Vous venez d'écouter le 12e épisode des Voix du Crime, saison 2. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes d'écoute préférées.